Bonjour et bienvenue, vous écoutez Simple et Cité, le podcast pour une vie plus simple et sereine dans le monde moderne. Aujourd'hui, pour la troisième émission de ce podcast, je vais aborder une critique courante que j'ai pu entendre au sujet du minimalisme au fil des années, qui est le fait que le minimalisme serait une démarche égoïste, et ma vision des choses sur ce sujet. Alors j'aurais voulu vous en parler dans le premier épisode sur le minimalisme, puisque c'est un prolongement des réflexions autour de la manière de voir le minimalisme en général, mais j'avais envie de partager ma vision des choses en détail, pour partir sur des bases saines dans les émissions futures par rapport à ma vision du minimalisme que je vais partager dans Simplicité. Donc j'ai décidé d'en faire un épisode à part entière. J'ai découvert le minimalisme avec le livre « L'art de la simplicité » de Dominique Laureau, que je vous présente dans l'épisode 001 si ça vous intéresse. Et évidemment, en tant qu'écrivaine, c'est tout naturellement que j'ai accompagné mes réflexions d'un blog en 2011, où je parlais de mes questionnements, mes découvertes et mes expériences autour de la simplicité. Et je me souviens que ce qui m'a beaucoup marqué au fil des années dans les retours des lecteurs et lectrices de ce blog-là, c'est que j'ai vu surgir en fait des critiques récurrentes sur le minimalisme et qui avaient un point commun, c'est vraiment cette idée que le minimalisme serait une démarche très individualiste, très égoïste, très centrée sur le soi, etc. Et que du coup plusieurs personnes décidaient de ne pas trop s'y intéresser ou de considérer cette démarche comme quelque chose d'un peu superflu, un peu superficiel, parce que justement c'est quelque chose d'égoïste, et puis qui du coup ne s'intéresse pas davantage au fait de mener une vie plus simple, ils s'arrêtent là, ils passent à autre chose. Et du coup ça m'a fait réfléchir un petit peu sur ce sujet-là, et j'ai fini par me forger une opinion moi-même sur le sujet. Et j'ai fini par prendre tout ça en compte dans ma manière d'aborder le minimalisme, et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc sans plus attendre, voici un peu les différentes critiques et réticences que j'ai pu entendre, d'où elles peuvent venir et ce que j'en pense. La première idée serait que le minimalisme est une démarche individualiste, car elle est centrée sur son propre mode de vie. Et donc la première conséquence, ou la première critique, c'est de dire que le minimalisme est égoïste. En gros, ce serait des gens qui se regardent le nombril, qui rangent leur placard, trient leurs chaussettes, etc. dans leur coin. Alors, effectivement, c'est une démarche qui est centrée sur soi, puisque c'est une démarche introspective. On réfléchit à son propre mode de consommation, son propre mode de vie, on réfléchit aux objets qui nous entourent, à notre intérieur, etc. etc. Sauf que pour moi, la démarche introspective centrée sur soi et une démarche tournée vers les autres ne sont pas mutuellement exclusives. On peut tout à fait s'intéresser à soi sans pour autant oublier les autres ou sans pour autant que ça n'ait pas d'impact sur les autres en fait. Et au contraire, je pense qu'il est important de passer du temps sur soi dans l'optique de mieux se connaître, de mieux s'accepter et de construire une vie où on se sent bien. Parce que je pense que c'est très difficile de se tourner vers les autres et d'aider les autres quand on ne se sent pas bien déjà soi-même dans sa propre vie. Et alors par exemple, dans les milieux du développement personnel qui abordent un peu tous ces sujets-là, de l'introspection, etc., il y a un exemple qui revient très souvent, qui est l'exemple des consignes de sécurité dans les avions. Alors je sais pas si vous avez déjà pris l'avion ou si vous écoutez les hôtesses de l'air quand elles présentent les consignes de sécurité. Le truc qui revient systématiquement, c'est de dire aux gens, s'il y a une dépressurisation de la cabine et que vous avez les masques à oxygène qui tombent devant vous, mettez toujours votre masque avant de mettre celui de vos enfants ou des gens qui vous accompagnent. Parce qu'en gros, si vous êtes pas bien oxygéné, vous n'allez pas pouvoir aider vos enfants ou vos proches correctement, et puis ça risque d'être mauvais pour tout le monde. Donc mettez votre masque à vous d'abord, une fois que vous êtes bien, tournez-vous vers les autres. Et en fait, c'est exactement ça l'idée. C'est qu'on ne peut pas, si on prend ça comme une métaphore, c'est beaucoup plus difficile d'avoir une démarche altruiste et de se tourner vers les autres, et de prendre le temps, d'avoir de l'empathie, de comprendre les autres, de s'engager pour des causes, etc., si on va pas bien, quoi. Si on a l'énergie drainée par tout un tas de choses qui font qu'on n'est pas bien dans sa vie. Et du coup, je pense que même si le minimalisme est une démarche centrée autour de votre propre consommation, de votre mode de vie, de votre intérieur, etc., c'est quand même une démarche qui peut avoir un effet bénéfique sur la communauté, les gens qui vous entourent. Déjà parce que les actions que vous menez à votre niveau ont un impact autour de vous, c'est-à-dire qu'on donne l'exemple en fait quelque part par nos actions. Et une fois que vous êtes plus en paix avec vous-même, vous avez plus d'énergie et de disponibilité pour vous tourner vers des initiatives plus collectives. Ensuite, la deuxième critique que j'ai souvent entendue autour du côté individualiste du minimalisme, c'est que ça promeut la société individualiste d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on vit dans une société qui est quand même beaucoup tournée vers le soi et assez peu tournée vers le groupe et la communauté. Et donc ce reproche-là, c'est un reproche qui peut être porté par des gens qui sont engagés pour une société plus collective, plus collaborative, des gens qui critiquent l'ultralibéralisme individualiste de nos jours et qui vont dire que le minimalisme promeut cet ultralibéralisme individualiste. Donc par exemple, ça va être des gens qui s'intéressent à la décroissance, à l'initiative citoyenne, à changer les choses par le bas et par les initiatives de groupe, etc. Et donc pour certains de ces gens-là, la démarche minimaliste n'est pas suffisante car elle est trop isolée, trop individuelle. Et elle encourage les gens dans leur vision individuelle du monde plutôt que de participer à un changement de société qui soit collectif. Alors personnellement, je pense que tout changement commence par soi-même. Ça rejoint ce que je vous ai dit dans le point précédent. C'est-à-dire que comment est-ce que vous pouvez porter vos valeurs justement de changement autour de vous si vous ne les appliquez pas déjà dans votre propre vie ? Comment est-ce que vous pouvez convaincre des gens autour de vous de s'engager dans des actions collectives, par exemple, plus écologiques, plus engagées, plus éthiques, etc., si déjà vous n'avez pas trouvé des moyens de respecter et d'appliquer ces valeurs-là dans votre mode de vie, à vous, personnellement ? C'est-à-dire que comment est-ce que vous voulez changer les autres si déjà vous ne vous changez pas vous-même ? Donc pour moi, le minimalisme, ce n'est pas quelque chose qui va à l'encontre de changement de société collectif, mais c'est plutôt un point de départ vers des initiatives et des changements qui sont plus collectifs. C'est une manière de commencer, en fait. On commence par mettre en accord nos propres actions avec nos valeurs, et je pense qu'il n'y a rien de plus convaincant pour autrui que de vous voir agir en accord avec ce que vous dites, et de voir comment ça impacte votre vie positivement, comment vous êtes mieux depuis que vous vivez plus simplement. Déjà, il n'y a rien de plus convaincant finalement pour les gens qui sont autour de vous. C'est ce qu'on appelle guider et convaincre par l'exemple et par les actions, en fait. Et ça, ça nécessite un changement personnel en premier lieu. Alors en plus, si on prend des gens qui sont au tout début de leur chemin de simplification, ce qui est peut-être votre cas, ce qui a été mon cas il y a quelques années, quand on mène la vie qui est considérée comme normale dans nos sociétés, qui est une vie qui est justement très individuelle, qui est beaucoup centrée sur l'argent, sur la consommation, sur le fait d'accumuler des objets, c'est hyper difficile. Si dès le départ vous dites à ces gens-là « Ah bah faut renoncer à la consommation de masse, faut faire de la décroissance, faut moins consommer, faut être plus écolo, faut faire du zéro déchet, faut plus prendre l'avion, faut plus voyager loin », enfin, si vous commencez par des discours aussi loin de la vie que ces gens-là mènent, ça va paraître impossible et ça va décourager les gens en fait. Et je vais vous donner un exemple, c'est donc je suis engagée dans une AMAP, donc une association pour le maintien de l'agriculture paysanne, qui est très engagée, et en plus qui se trouve dans la Confédération nationale du travail, qui est basée à Paris, qui est une association qui vient à la base d'Espagne, et qui est beaucoup engagée dans des causes humanistes, etc., et qui fait beaucoup de choses, et notamment... On a régulièrement des ventes de produits qui sont éthiques, qui sont engagés dans des causes qui sont justement collectives. Et on achète des produits qui sont éthiques et solitaires pour soutenir ce genre de cause. Et donc je discutais 5 minutes avec une nana qui vendait ce truc-là. Et en 5 minutes de discussion, elle m'a expliqué que la bio, c'était donc les produits bio, c'était du greenwashing. Et qu'en gros, c'était de l'arnaque et que c'était de la merde et que les produits bio, c'était pas bien. Et que La Ruche qui dit oui, qui est une association qui permet d'acheter des choses directement auprès de producteurs, c'était en fait nul parce que ça avait été monté par un gars qui a monté plein de grosses boîtes et que c'est complètement nul, etc. Alors, peut-être qu'elle avait raison dans ses arguments. Enfin, vous prenez quelqu'un qui s'engage dans une démarche de simplicité, qui s'engage dans une démarche de consommation éthique, et vous leur dites que le fait d'acheter des produits bio ou de s'inscrire à une ruche, qui sont des actions qui sont finalement assez faciles à mettre en place dans un monde urbain, si dès le départ vous leur dites « Non, mais en fait, c'est de la merde, faut pas faire ça », bah les gens, ils vont dire « Bah ok, je fais rien, quoi. Si mes efforts comptent pas parce que c'est pas assez, autant que j'en fasse pas du tout. » Donc du coup, voilà, je trouve que ça, c'est des discours qui sont importants, parce que c'est important de sensibiliser les gens à certaines choses, mais en même temps, il faut aussi faire attention à l'écart qu'il peut y avoir entre bah, l'idéal qu'on peut avoir et les valeurs qu'on peut porter, la société vers laquelle on veut aller, et là où en sont les gens actuellement. Et moi, je suis plutôt du genre à promouvoir les petits pas et à faire les choses petit à petit. Et que bah, d'acheter un produit bio, c'est mieux que de rien faire du tout. Ou s'inscrire à une ruche, et bah, c'est mieux que de rien faire du tout. Voilà. Et donc, du coup, je pense que c'est hyper important de penser au niveau individuel, dans le sens, penser à quelle est votre part à vous que vous pouvez faire à votre niveau. Tout changement commence par soi-même. Et la moindre petite chose, la moindre petite goutte dans l'océan, et ben en fait c'est déjà ça. Et quand on parle de mener une vie plus simple et plus minimaliste, certes c'est orienté sur votre vie à vous, mais au moins ce sont des petits changements que vous accomplissez maintenant, et c'est mieux que rien, et moi je trouve ça positif et je trouve ça bien. Et puis si sur le chemin ça vous amène à vous engager sur des actions sociales qui sont plus collectives et qui ont plus d'impact parce qu'il y a des gens qui s'y engagent, et bien c'est encore mieux. Ensuite, un deuxième type de critique que j'ai souvent entendu, c'est le fait que le minimalisme et la simplicité volontaire, ce serait un problème de riche. C'est-à-dire que, quand vous vivez dans la pauvreté, dans l'indigence, et que vous avez du mal à trouver à manger, etc., vous ne vous posez pas la question de la simplicité volontaire, puisque de toute façon, vous vivez une vie simple de manière forcée. Par exemple, j'ai déjà vu sur Instagram le hashtag « simplicité volontaire forcée », où en gros, on émet cette critique que si on cherche à simplifier sa vie, c'est qu'on en a déjà trop, et qu'on est déjà dans une surabondance, et que du coup, voilà, c'est un problème de riche, quoi. De la même manière qu'on peut considérer que c'est un problème de riche de vouloir faire un régime et consommer moins de calories par rapport à des gens qui n'ont pas de quoi manger. Et c'est vrai que si on prend les choses à l'échelle mondiale, je comprends tout à fait cet argument, c'est-à-dire que l'ouvrier textile qui fabrique nos vêtements pour 30 euros par mois au Bangladesh, il n'en a rien à faire des garde-robes capsules et de porter que 10 vêtements pendant 10 jours ou ce genre de choses, vous voyez ce que je veux dire. Et effectivement, je pense que la nécessité de réfléchir à un mode de vie plus simple concerne essentiellement les sociétés de consommation, qui sont celles des gens qui consomment à outrance, justement. Le truc, c'est que ce sont ces comportements-là, d'achat et de consommation, qui exploitent ces fameux ouvriers qui sont payés 30 euros par mois pour faire des vêtements. Bah, c'est nos comportements qui génèrent justement la pauvreté dans d'autres pays, qui génèrent la surpollution à cause du textile, qui génèrent ces ouvriers qui sont mal payés pour fabriquer nos vêtements qu'on achète en masse et puis qu'on balance par la suite. Et le fait de travailler sur le minimalisme et sur la simplicité volontaire, encore une fois, c'est une manière de faire notre part pour ne pas participer à ces choses-là, ou pour participer, limiter en fait notre participation à cet engrenage-là. Et du coup, c'est quoi la solution des gens qui critiquent et qui disent « ouais, c'est un problème de riche ». La solution, c'est de pas simplifier, c'est de continuer à consommer à outrance et ne rien faire. Et justement, je pense que cette poursuite de la simplicité volontaire, de la sobriété heureuse, d'un mode de vie plus simple, c'est tout sauf futile. Comme le dit Pierre Rabhi dans son livre « Vers la sobriété heureuse », avec les désastres écologiques et humains de ce consumérisme, il est nécessaire et indispensable de revenir à une vie plus simple, d'apprendre à se contenter de moins, et de sortir de ce conditionnement qu'on a qui vise à acheter, jeter, racheter, etc. C'est pas futile, c'est essentiel en fait de se poser ce genre de questions, à mon sens. Dans une société où nous sommes conditionnés à ramener notre valeur sociale à ce que nous avons, donc l'avoir, plutôt qu'à ce que nous sommes, à ce que nous accomplissons, donc l'être, il n'est pas évident de remettre cette norme en cause. Il n'est pas évident de sortir des sentiers battus pour vivre plus simplement. Donc pour moi, c'est une démarche courageuse et c'est loin d'être un caprice de riche. Je vais terminer ce dossier sur les critiques du minimalisme en partageant une critique que j'aurais moi-même à émettre au sujet du minimalisme et de tous ces mouvements-là en général. C'est la manière dont ça peut être repris par les marques, certaines marques, certains produits, certaines personnes d'influence qui finalement ne gardent que l'apparence du minimalisme parce que c'est un sujet qui est un petit peu à la mode et qui fait venir du monde en ce moment et puis qui le vendent comme une coquille vide au lieu d'aller jusqu'au bout de la démarche. C'est-à-dire que le minimalisme, pour moi, ce n'est pas une course au moins possible, c'est pas une course à l'objet de meilleure qualité possible, dans le sens où si on reste dans la consommation d'objets, On reste dans l'avoir. C'est-à-dire que si vous partez dans une démarche minimaliste en vous disant bah, « je vais acheter telle marque parce que cette marque-là, elle est minimaliste et ses produits sont minimalistes », non, en fait, c'est un argument de vente. Et on reste dans la logique de consommation et on reste dans la logique marketing. Et si on se retrouve dans une démarche où les gens désencombrent leur maison mais pour tout racheter et tout redésencombrer, et tout racheter à nouveau chaque saison, etc., bah, au final, on ne sort pas du système, puisqu'on est toujours dans un système de acheter, utiliser, jeter. Ou encore, si on achète des objets à l'esthétique minimaliste, ce qui n'est pas un problème en soi, hein, c'est pas, le souci, ce n'est pas les objets en eux-mêmes, mais si on s'achète, mettons, un canapé en cuir blanc super luxe à 5000 euros parce qu'il est une esthétique épurée, minimale, etc., on sort pas forcément de cette démarche qui consiste à penser que notre identité est dans ce qu'on possède et que notre valeur sociale est dans le luxe des produits qu'on achète, par exemple. Pour moi, le minimalisme, c'est vraiment une démarche, c'est vraiment un état d'esprit par rapport aux objets. Et acheter un canapé à 5000 euros ou acheter dans des marques qui se targuent d'être minimalistes, c'est pas ça le problème en soi. Moi, ce qui me pose problème, c'est l'idée que ces marques-là ou ce genre de personnes-là réutilisent le message minimaliste pour nous faire acheter, mais où derrière, ça reste une démarche pour nous faire acheter. Et c'est quelque part utiliser le minimalisme comme une excuse, de la même manière que le greenwashing, ce qu'on appelle le greenwashing, c'est utiliser l'argument bio-écologique pour nous faire acheter, alors que derrière, ces marques-là ne suivent pas des valeurs bio-écologiques. Et là, c'est pareil. Ça va être des gens qui vont utiliser l'étiquette minimaliste pour nous faire acheter, mais qui ne suivent pas forcément les principes de la simplicité dans leurs valeurs et dans leur manière de faire les produits, etc., de leur entreprise. Et ça, pour moi, ce serait une critique que j'aurais à faire à l'encontre de tous ces mouvements-là aujourd'hui. Parce que ça peut enfermer les gens qui suivent ces trucs-là dans un minimalisme superficiel en se disant « Ah bah c'est bon, je suis minimaliste, j'ai acheté mon canapé blanc. » Et où du coup, ils vont pas plus loin dans la démarche. Et justement, il n'y a pas ce côté remise en question et mise en pratique de valeurs qui sont bien au-delà des objets. Cela étant, le chemin vers la simplicité, c'est quelque chose qui est long, qui a beaucoup d'étapes. Et je ne critique pas les gens qui vont acheter auprès de ces marques-là ou qui vont écouter ces gens-là. Je reprocherai jamais à des gens de ne pas en faire assez. Parce que en faire peu, c'est toujours mieux que de ne pas en faire du tout. Et quand on commence à s'intéresser au minimalisme et qu'on sait pas trop où aller, on peut être tenté d'écouter et de croire justement ce genre de marque qui est superficielle et qui va pas au bout de la démarche. Et on peut être tenté, et on peut se retrouver à tomber dans un autre cycle de consommation ou un autre genre de consommation. Mais ça, c'est pas un reproche que je fais aux personnes qui tombent là-dedans. En fait, ces personnes-là, elles sont un petit peu victimes du minimalisme washing de ce genre de marque. Et c'est plutôt la démarche de ces marques-là qui me cause du grief, quoi. Voilà, donc moi, ce que j'aurais à vous dire là-dessus, c'est si vous vous intéressez au minimalisme et que vous vous intéressez justement à des marques, à des personnes qui propagent ce message, utilisez votre sens critique. Continuez à chercher des informations, essayez d'aller plus loin, ne prenez pas pour argent comptant une marque qui vous dit « Hey, youhou, je suis minimaliste !» Non mais, ou « Je suis simple, je suis dans la simplicité, je suis dans l'éthique. » Ok, mais concrètement, qu'est-ce que cette marque-là fait pour que ses produits soient plus éthiques ? Enfin, continuez à chercher, continuez à vous renseigner sur les différentes marques et les différents produits et ne vous arrêtez pas à l'apparence de simplicité ou d'engagement que peuvent avoir certaines marques ou certaines personnes.
Et donc, gardez votre esprit critique bien affûté. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est celui-là. Ensuite, on va arriver à la partie du podcast où je vous donne un conseil pratique et concret.
Et donc aujourd'hui, ça va être un exercice pour vous aider à définir votre propre vision de la simplicité et justement quelles valeurs vous avez envie de suivre et de mettre en œuvre dans votre propre chemin vers la simplicité. Donc c'est très très simple, ça reste relativement théorique, mais c'est très très simple. Si vous prenez une feuille et vous notez en vrac, en faisant un brainstorm, comme on dit en anglais, de tout ce qui vous tient à cœur dans votre vie. Et dans un premier temps, vous vous censurez pas, vous mettez tout ce qui vous tient à cœur, tout ce qui vous vient en tête quand vous réfléchissez à qu'est-ce qui me tient à cœur dans ma vie. Donc ça peut être des priorités autour de la famille, de la qualité de vie, certains loisirs, certains projets, ça peut être des valeurs que vous avez envie de porter autour de l'écologie, l'économie locale, les petits créateurs, faire des efforts pour réduire les déchets, pour la planète, pour les animaux, peu importe, vous mettez ce qui vous tient à cœur. Et ça peut être des zones de votre vie
que vous avez davantage envie de prioriser en ce moment. Ça peut être votre carrière, vos enfants, votre intérieur, l'idée de davantage voyager, vos loisirs, voilà, plein de choses comme ça. Et puis une fois que vous avez tout noté, que vous avez vraiment fait votre petite tempête de cerveau, vous organisez un petit peu ce que vous avez noté, vous voyez si dans certains mots, certaines phrases que vous avez écrites, il n'y a pas une idée globale qui s'y retrouve, enfin qui peut englober tout ça. Et donc vous organisez ça en grandes idées, en fait, en grands thèmes, en grandes valeurs, en grandes priorités. Et puis vous faites une liste, du coup, de ces valeurs et de ces priorités-là, que vous gardez sous le coude. Ah, donc ça reste assez académique comme exercice, mais en réalité c'est super utile, parce que déjà, quelque part, cette liste-là, c'est votre pourquoi. C'est pourquoi vous avez envie de vous engager dans le minimalisme, dans la simplicité. Pourquoi vous avez envie de faire ces efforts-là? Quelles valeurs vous êtes en train de porter? Et quelque part, vers où vous avez envie d'aller, ce que vous avez envie de prioriser. Donc c'est super important. Et ça vous permet de garder votre motivation à aller dans le bon sens, parce que vous revenez à votre pourquoi. Quand vous êtes dans une phase un petit peu de doute ou de difficulté, etc., ça vous permet aussi de vous justifier si vous en ressentez le besoin face à des critiques qu'on peut faire vis-à-vis de la démarche minimaliste, puisque c'est le sujet de l'épisode du jour. Mais si vous en voyez nécessité, hein, il n'y a jamais obligation de se justifier de quoi que ce soit, vous faites ce que vous voulez. Et puis ça vous sert aussi à prioriser les choses. Donc on en reparlera dans des émissions à venir, mais par exemple lorsque vous faites un achat en tant que consommateur raisonné, c'est très difficile de trouver un objet qui coche tous les critères possibles et imaginables d'éthique, d'écologie, de machin, de trucs. Et du coup, le fait d'avoir cette liste, ça vous permet d'établir des priorités, de trouver des objets qui vont être en accord avec vos valeurs à vous, même s'ils ne sont pas parfaits. Et du coup, ça vous permet de faire quelque chose et de trouver quand même des objets plus raisonnés, plus éthiques, plutôt que de se dire « Ah, de toute façon, j'arriverai jamais à trouver un objet qui soit éthique, local, pas cher, joli, fait par un artisan local. Je trouverai jamais, donc je laisse tomber, je vais chez Carrefour, quoi.
» Voilà, donc c'est important d'avoir ce genre de liste, et je vous invite à la garder quelque part dans un coin, parce que je pense qu'elle vous sera fort utile à l'avenir. Enfin, on va terminer l'émission avec la ressource du jour, qui est le livre « Se changer, changer le monde » par 6 auteurs différents,
donc Ilios Kotsou, Caroline Le Cire, Christophe André, John Kabat-Zinn, Pierre Rabhi et Mathieu Ricard. Donc certains d'entre eux sont plutôt connus dans le milieu de l'engagement, de la simplicité, de l'épanouissement, de l'altruisme, etc. Et je vais vous présenter ce livre parce que ça rejoint toute cette discussion qu'on vient d'avoir sur le côté égoïste du minimalisme, puisqu'en gros, le message de ce livre, dans l'essence, c'est de dire que pour changer le monde, il faut commencer par se changer soi-même. Et que c'est qu'en étant plus équilibré soi-même, en allant mieux soi-même, qu'on peut commencer à se tourner vers les autres. Et chacun y va de sa propre spécialité, que ce soit, donc Mathieu Ricard, il est moine bouddhiste, Pierre Rabhi, c'est un agriculteur qui pratique l'agroécologie, etc. Christophe André, c'est un psychiatre. Donc voilà, chacun y va de sa spécialité pour aborder la question sous son angle à lui, ou elle. Mais le message global est très en accord avec cet épisode, c'est pour ça que je voulais vous présenter ce livre. Et comme dit Pierre Rabhi, finalement il n'y a pas un gros problème dans ce monde, il y a 7 milliards de petits problèmes. Et si on travaille sur soi, ça veut dire qu'on travaille à régler l'un de ces petits problèmes.
Et c'est une fois que l'on va bien soi-même que l'on peut ensuite tendre la main vers l'autre et œuvrer pour un monde meilleur. Si comme d'autres personnes qui ont émis ces critiques, vous êtes freiné par l'apparence égoïste du minimalisme et de la simplicité volontaire, je pense que ce livre est une excellente lecture pour comprendre en quoi c'est, au contraire, le début d'une démarche altruiste que de se construire une vie plus simple et sereine en premier lieu. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce débat autour de l'égoïsme et de la démarche minimaliste vous a plu. Si le sujet vous intéresse et que vous avez un avis à partager, échangez avec moi sur Instagram et Twitter @floriteller, F-L-O-R-I-E-T-E-2-L-E-R, ou sur le site simple-cite.com/003. Vous pouvez aussi envoyer un mail à podcast@simple-cite.com. Si vous aimez le podcast, notez-le et mettez un commentaire sur iTunes. C'est un excellent moyen pour que l'émission gagne en visibilité et que d'autres personnes la découvrent. Vous pouvez aussi en parler à des amis et partager le lien sur les réseaux sociaux si vous avez envie de m'aider à passer le mot pour mener une vie plus simple et sereine dans le monde moderne. Merci infiniment de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée et à très vite !